Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de même.
Frères et sœurs, bonjour, la paix du Seigneur soit avec vous. Quel beau texte, hein ? Un texte que l'on connaît normalement par cœur quand on fréquente l'Évangile depuis ne serait-ce qu'un peu de temps. Et ce texte de l'Évangile, vous voyez, qui a été lu ce matin, il nous amène exactement dans la suite de la thématique qui a été mise en lumière la semaine passée à travers les épîtres de Pierre. De quoi on a parlé la semaine dernière ? De l'amour fraternel. Et ici, il s'agit de l'amour dans un sens plus large. L'amour du prochain m'est présenté, comme nous allons le voir, développé jusque dans ses ultimes conséquences. Et vous savez que la parabole qui a été lue, Luc est le seul des 4 évangélistes à l'avoir consignée. On ne la trouve pas dans les autres évangiles. Mais en fait, j'ai vu qu'on arrive par recoupement à situer chez Matthieu et Marc dans quel contexte Jésus semble l'avoir proposé. Et je crois que c'est intéressant pour nous déjà de s'arrêter là-dessus. Parce que d'abord chez Matthieu, on voit ça au chapitre 22, Jésus subit plusieurs assauts au sujet de son interprétation des Écritures, sur les plans aussi bien éthiques et morales que théologiques. Et on voit d'abord les pharisiens qui viennent. Ils se consultent sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. C'est au verset 15. Et ils vont voir Jésus au sujet de l'impôt que l'on paye à César. D'habitude, de manière quasi constante, Jésus est en accord avec la doctrine des pharisiens. Ça, c'est important à savoir. Sa doctrine est en ligne avec la doctrine des pharisiens. Mais c'est une chose, la doctrine bonne, et c'est autre chose, un cœur bon. Et ce qui est triste ici, c'est que, avec leur propre délégation, les pharisiens envoient aussi des partisans du roi Hérode. Pourquoi ils font cela ? C'est là le contexte où Jésus va donner cette parabole, donc c'est important de voir ce qui entoure Jésus, la pression que reçoit Jésus. Eh bien, on envoie les Hérodiens avec les pharisiens pour prendre Jésus en défaut sur des questions politiques et pour mettre le roi en personne sur le dos de Jésus. Et ça, c'est un fait hélas connu, que lorsque la religion est assez forte, elle cède ou elle peut céder à une tentation, elle peut être tentée en tout cas, pour parvenir à ses fins, de faire commerce avec le pouvoir séculier, et même s'il est corrompu. Et ça, malheureusement, dans l'Église, on l'a vu à travers l'histoire de l'Église. Et dans notre cas, Jésus gênait la religion. Et puisqu'Hérode avait déjà fait décapiter Jean le Baptiste, il saurait bien s'occuper de Jésus. Mais Jésus va laisser muer à la fois les pharisiens et les hérodiens. Et surtout, il va les renvoyer dos à dos. Et puis, le texte précise, le même jour, deuxième vague, Les Sadducéens viennent auprès de Jésus. C'est Matthieu 22, 23. Pourquoi ? Pour lui poser une question piège apparemment imparable. Et Jésus va retourner contre eux le piège avec une simplicité et une assurance qui laisse même la foule qui entoure et qui écoute frappée d'étonnement. Vous voyez, Jésus, il avait une sagesse accessible à tous. Alors, les pharisiens vont revenir à la charge. C'est au verset 34. Et l'un d'eux vient questionner Jésus autour du premier commandement. Ce n'est pas n'importe qui, ce pharisien, puisqu'il est docteur de la loi. Marc signale qu'il est scribe. Et dans le récit de Marc, c'est au chapitre 12 à partir du verset 28, on voit chez ce docteur de la loi un homme de bonne doctrine, peut-être même un certain respect qui chez lui se mêle à l'offensive. Et Luc nous le montre animé d'une certaine dose de quoi ? De mauvaise foi. Il se peut malgré tout qu'il profite de cette occasion pour chercher une réponse à une inquiétude personnelle qui le taraude lui-même. Cette question, en fait, quand elle est posée dans l'évangile de Luc, c'est « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Est-ce que ce docteur de la loi est comme Nicodème, intrigué par Jésus ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme des Écritures. Et ce qui est visé, comme on l'a dit, ce n'est rien de moins que la vie éternelle. Et le docteur de la loi, il répond comme Jésus lui-même le fait dans les autres évangiles. Il va résumer toute la loi, puisque Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-il écrit ? Que lis-tu » Et le docteur de la loi est avisé, et il résume toute la loi dans les deux commandements dont Jésus dit, c'est dans Marc 12, 31, qu'il n'y a pas de commandement plus grand que cela. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est Jésus qui le dit. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il faudrait traduire comme cela. Toute la loi et les prophètes sont suspendus à ces deux commandements. Enlevez ces deux commandements et la loi ne tient plus. Une chose nous étonne, c'est que Jésus dit au docteur de la loi qui cite les deux commandements, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Fais cela et tu vivras. Et il parle de la vie éternelle, puisque la question était bien « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et là, nous, la doctrine que nous connaissons, c'est « Crois au Seigneur Jésus » et tu seras sauvé. Vous êtes d'accord ? Celui qui a le Fils a la vie. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, est-ce que Jésus a une doctrine contraire à celle de ses apôtres ? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Adhérer à Jésus, c'est entrer dans la vie. Mais adhérer à Jésus, c'est entrer dans la vie de Jésus, dans la dynamique de la vie de Jésus, c'est-à-dire, cela ne consiste pas seulement à aimer le Dieu qui nous a donné son Fils, mais cela consiste à aimer ceux qui ont été aimés par le Père. C'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Parce que ce qui précède le message, le verset, c'est « Dieu a tant aimé le monde ». Il ne faut pas se contenter de croire, il faut croire et écouter. Dans Ésaïe, cela revient souvent. « Écoutez et vous vivrez ». Qu'est-ce que signifie « écouter » ? C'est plus que simplement entendre. Vous êtes d'accord ? Écouter, c'est être attentif. Et d'ailleurs, le commandement, le premier, il est introduit ainsi. Écoute, Israël. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un ou unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, écoute. Prends au sérieux, parce qu'il vient un deuxième commandement rattaché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoute. Écoute afin de quoi ? Ça veut dire prends au sérieux, prends en compte la parole divine pour la mettre en pratique. Et tu vivras. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. C'est l'apôtre Jacques qui dit ça. Chapitre 2, versets 18 à 20. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Or, on peut facilement penser qu'on aime Dieu quand on fréquente le culte avec assiduité, quand on fait tout comme il faut, quand on a une vie bien réglée. De la même manière, on peut penser qu'on aime Dieu parce qu'on vit dans le surnaturel, qu'on obtient des guérisons par la prière, qu'on a des prophéties qui tapent dans le mille, des visions, qu'on pratique des exorcismes. Mais même ainsi, Jésus peut dire « Tu as fait des miracles en mon nom, mais je ne te connais pas ». Ne nous exposons pas à pareille déclaration. Au test de l'amour du prochain, personne ne devrait plus pouvoir se duper. Au fond, le plus souvent, vous savez, la Bible, elle est simple et directe. Et Jean va dire cela, premier épître, chapitre 4, verset 20. « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et c'est cela qu'on rencontre dans cette parabole. Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisque les personnes qu'il montre comme celles qu'il ne faut pas imiter, ce sont les personnes de la religion. Et puis, il passe un sacrificateur et il passe un lévite. Alors Jésus est quand même gentil, parce que c'est un docteur de la loi, il n'est pas forcément un sacrificateur ou lévite qui s'est adressé à lui, il ne dit pas un docteur de la loi. Mais le docteur de la loi, lui, il sent que ça chauffe, parce qu'il s'est aventuré dans un terrain où il commence à se sentir pris au piège, parce qu'il a bien répondu quant à la théorie. Mais cette théorie commence à l'exposer, parce qu'elle contient un commandement aux conséquences incalculables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va très très loin, enfin, on ne peut pas aller plus loin. Et alors, le docteur de la loi essaye de poursuivre dans ses théories. Eh bien, et qui est mon prochain? Parce que vous savez que le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vient du Lévitique, chapitre 19, où il est question des fils de ton peuple, de ton frère. Tu ne garderas pas rancune contre un fils de ton peuple. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais dans le contexte, c'est toujours fils de ton peuple ou un frère. Alors, le scribe, il essaye de limiter la portée du commandement. En tout cas, pas aimer comme soi-même un ennemi ou un païen. Alors, Jésus va faire quelque chose de très naturel, qui parle normalement à tout être humain. Il va citer un exemple, l'amour authentique, dont n'importe qui sur cette terre, en fait, est capable, si seulement, pour reprendre des expressions bibliques, il ne ferme pas ses entrailles. Où il ne ferme pas son cœur face à la souffrance ou la détresse du prochain. Le cœur, l'humanité et l'amour ne s'arrêtent pas aux frontières de la saine et de la juste doctrine. Jésus va illustrer ce cœur, cette humanité, cet amour, non par la parabole du bon croyant, mais par la parabole d'un bon samaritain. Et je me suis dit, Jésus, il n'est vraiment pas rancunier. Parce qu'on voit juste au chapitre avant, au chapitre 9 de Luc, que des Samaritains ont refusé d'accueillir Jésus parce qu'il était en chemin vers Jérusalem. Vous voyez ? Donc il n'est vraiment pas rancunier. On lui ferme la porte, on lui refuse l'hospitalité et il dit quand même, non, je continue à croire dans ce peuple. Vous voyez ? C'est facile de dire, oh, ces gens-là, vous savez. Non, non, non. Jésus n'enferme personne dans un diagnostic comme ça. Il vient de se faire renvoyer par les Samaritains, mais il cite l'exemple d'un bon Samaritain. C'est une invitation à quoi ? À ne pas juger, à ne pas enfermer les gens dans des cases et des catégories. En plus, vous savez, les Samaritains, ils ont le culte du Dieu d'Israël, mais mélangé à de l'idolâtrie. Alors, oh malheur! Mais Jésus vient bousculer les cœurs et les mentalités. Vous savez, il fait toujours ça. Déjà, une Samaritaine s'était étonnée de ce que Jésus lui adressait la parole. Vous vous souvenez, Jean chapitre 4. Car, dit le texte, les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Mais un Samaritain peut se pencher sur la souffrance d'un Juif. La première leçon que Jésus va donner ici, c'est qu'un acte d'amour, c'est un acte d'amour. Et ça a de la valeur. Qu'il soit posé par un Juif ou un païen. Et vous savez, l'apôtre retiendra la leçon, parce qu'on l'entendra dire dans la maison d'un païen, Corneille, un centurion romain, « Je reconnais qu'en toute nation, celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. » Acte 10. Et le baptême du Saint-Esprit va être accordé puissamment, généreusement, non seulement à Corneille, mais à toute sa maison. Voilà, une maison de païens. Jésus cite, c'est encore dans le même évangile, il arrive une chose, Jésus passe de la Samarie à la Galilée, dit les procris vers lui à distance, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Et dès qu'il les voit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ça veut dire, « Faites ce que la loi ordonne. » Et puis là-dedans, au milieu de ces 10 lépreux, il y a un Samaritain, et le Samaritain, il va avec eux. Vous savez, il se mélange, il se dit, peut-être le sacrificateur, il est là au milieu, c'est une brebis différente, vous savez, parce qu'il n'est pas juif. Et pendant qu'ils y vont, les 10 sont guéris. Et l'un d'eux se voit guéri, revient sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Et c'est le Samaritain du groupe. Et Jésus prend la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est donc un Samaritain qui est pris comme modèle. Et cet homme a su montrer sa reconnaissance et donc son amour. Vous savez, l'action de grâce, c'est une démonstration d'amour. Savoir dire merci, c'est se laisser toucher par ce qu'on nous a fait de bien. Et tout ce que Jésus va dire en répondant à la question « Qui est mon prochain ?» va revêtir une importance capitale. Parce que ce faisant, il va aller au fond de la doctrine de l'amour biblique du prochain. On reprend la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Cet homme se retrouve dépouillé, roué de coups, gisant à demi-mort. Mais quel est le chemin ? Il va d'où à où ? De Jérusalem à Jéricho. Et de Jérusalem à Jéricho, ça descend. Le texte le précise. L'homme descend. Jéricho, qu'est-ce que ça représente ? C'est une ville qui jamais n'aurait dû être reconstruite si on avait écouté les ordres de Dieu. Dans le livre de Josué, c'est une ville qui devait rester détruite. Pourquoi ? Parce que Jéricho symbolise la forteresse de l'esprit du monde, de l'esprit anti-Dieu. Et il faut faire attention sur quel chemin nous marchons. Quand on croise quelqu'un qui est dans un piteux état ou dans une affreuse situation, bien sûr que nous devons bien nous garder de juger la personne et de dire « Oh, mais ça, c'est peut-être parce qu'elle a fait ceci et cela. » Ou, vous savez, dans ce pays, les gens, voilà. Et puis, on classe et comme ça, on se dégage de l'aide, de l'implication. Mais l'amour s'implique. L'amour s'implique. Et c'est comme ça, je crois que c'est le titre qu'on pourrait donner à cette parabole. L'amour s'implique. Avant de faire comme les amis de Job, d'accabler quelqu'un, écoutons plutôt. Écoutons. Combien Job demande à être écouté. Et non, on veut trouver des explications, on fait de la super théologie et on l'accable encore plus. Attention de ne pas faire cela. Soyons très prudents avec cela, parce que nous pouvons faire beaucoup de dégâts. Cependant, ne soyons pas non plus naïfs, ne fermons pas les yeux sur des réalités. Si on va de Jérusalem à Jéricho, attention, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu vas de ta vie dans l'esprit et que tu commences à descendre à la vie selon les convoitises des yeux, de la chair, Et ce qui flatte l'orgueil, tu es en train de descendre de Jérusalem à Jéricho. Et le malin, il nous appelle toujours, il dit, viens, viens dans la plaine. Regarde ici, il y a de l'eau, là-haut c'est sec. Parce que les collines de Judée sont sèches, Jérusalem là-haut c'est sec. Et le malin nous dit, mais viens, 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 tu vas voir. Vous savez, Lot est descendu vers cette plaine. Mais nous savons ce qui est arrivé à Lot et à sa famille. Mais le malin nous dit, viens, 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 descends. Laisse-toi descendre, tu vois, c'est facile. Qu'est-ce que tu te fatigues à monter? C'est facile, viens. Et puis quand on est en bas, il nous roue de coups. Il nous prend, une fois qu'il nous tient, il nous laisse à terre. C'est remarquable de voir, j'étais frappé, des fois je me dis, mais est-ce que les évangélistes, quand ils ont écrit les évangiles, est-ce qu'ils ont vu toutes ces choses, toutes ces merveilles qu'ils ont placées? C'est incroyable. Au chapitre 18, on voit la même situation en miroir, tout à fait opposée. Luc 18, versets 31 à 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors ça, c'est incroyable, parce qu'il arrive la même chose au Fils de l'homme, c'est-à-dire au Christ, qu'il est arrivé à cet homme qui descend. Mais, au verset 35, on voit quoi? Que Jésus approchait de Jéricho. Et donc, il dit, nous montons à Jérusalem. Depuis où? Depuis Jéricho. C'est le chemin inverse. Ésaïe, venez et montons à la montagne du Seigneur et vers la maison du Dieu de Jacob. Jésus fait le chemin inverse. Et il veut nous entraîner dans ce chemin inverse. Nous montons à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on allait faire à Jérusalem? On allait adorer. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Qu'est-il écrit dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe? Chacun suivait son propre chemin. Mais il y avait là le Fils de l'homme, roué de coups, défiguré. Chacun suivait son propre chemin. Nous reviendrons là-dessus, en conclusion. Mais voilà que passe un Samaritain qui voyageait. Étant venu là, il le trouve. Et qu'est-il dit? Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Une première chose, il est ému de compassion. Ça veut dire qu'il se laisse toucher. Dans l'Écriture, il est dit, je l'ai déjà cité tout à l'heure, qu'on peut fermer ses entrailles, on peut fermer son cœur, on peut aussi fermer ses oreilles. Proverbe 21:13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Et on trouve ça dans l'Évangile. Clairement, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Je leur dirai, je ne vous connais pas. Ils ne recevront pas de réponse. Pourtant, ils auront fait des choses, ils auront prêché au nom du Christ. C'est terrible. Ne fermons pas nos oreilles, ne fermons pas notre cœur, ne fermons pas nos entrailles. Fermer son cœur, c'est fermer ses oreilles, déjà, c'est fermer son cœur. Et fermer son cœur, c'est quoi? C'est montrer l'incirconcision du cœur. Paul dira dans sa lettre aux Romains, le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Cela n'enlève rien à l'élection du peuple juif. Paul le redira de manière développée dans la même épître. Mais ce que ça veut dire, c'est que sans la circoncision du cœur, eh bien, l'eau de l'esprit, la vie de l'esprit ne peut pas jaillir. Et la vie de l'esprit, c'est une vie d'amour. C'est une vie qui nous conforme à Jésus-Christ. La circoncision du cœur est nécessaire. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre ensemble cet homme qui est là, gisant à terre, à demi-mort, et roué de coups, et Jésus sur la croix, roué de coups, mourant, la vision de la croix doit changer nos cœurs. Sinon, nous ne serons jamais comme Jésus. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le Samaritain s'arrête. Il bande les plaies de l'homme, en y versant de l'huile et du vin. C'est très beau. J'ai toujours aimé qu'il n'ait pas écrit du vin et de l'huile. Normalement, mais pour désinfecter, mais ça fait mal. Mais de l'huile et du vin. Quelle est cette huile? Évidemment, ça peut être tout à fait matériel, mais ça peut être aussi l'huile de l'onction messianique. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour consoler les affligés de Sion. L'homme de l'Esprit console les autres. L'homme de l'Esprit se tourne vers les autres. L'homme de l'Esprit n'a pas que le vin nouveau, il a aussi l'huile. Et d'abord l'huile. Et puis, il le met sur sa propre monture. Quand on voit des situations compliquées, complexes, douloureuses, la tentation, c'est de « j'ai rien vu ». Pourquoi ? Parce qu'on sent que on va se trouver dans une situation très embarrassante. On se dit « oh là là, si je mets le doigt, c'est la main, c'est ouf, où ça va me mener ?» Mais l'homme le prend à bras le corps pour charger un gisant à demi-mort sur une monture, un âne ou un mulet. Ça demande de l'effort. Et cet homme ne cherche pas à se débarrasser. Il conduit l'homme à une hôtellerie et il prend soin de lui. Ce n'est pas l'hôtelier, trouver quelqu'un pour prendre soin de lui. Il prend soin de lui. Il dit, cher monsieur, on va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Posez des questions qui rejoignent les gens dans leur humanité. Et il ne fait pas tout le boulot tout seul. Il amène à une hôtellerie pour qu'on continue de prendre soin de lui parce qu'il a ses affaires. Ça ne veut pas dire que tout est englouti par la situation. Non. Mais le moment donné, il s'implique. L'amour de Dieu est un amour qui coûte, on le voit là, en force, en temps, en argent. Je répète, l'amour de Dieu est un amour qui coûte en force, en temps et en argent. Parfois, on peut donner du temps ou un peu de temps. Parfois, on peut donner du temps et des forces. Parfois, on peut donner de l'argent et des forces. On ne peut pas forcément tout donner toujours. Et puis, il faut de la sagesse, de la prudence. Il amène à l'hôtellerie. L'hôtellerie, ça peut symboliser quoi? Ben, l'église. L'église. Il y a quelques mois, on m'a amené une personne, des évangélistes de rue, trouve quelqu'un dans la rue. Toxicomane, et puis dans la misère. Et cet homme, ces gens ne parlaient pas sa langue. Ce sont des étrangers, on pourrait dire, tiens, des Samaritains pour nous. Voilà, des Latinos, qui parlent très très mal le français. Par contre, le toxicomane, lui, parlait français. Mais ils l'ont entouré, ils ont donné de l'amour, tout ce qu'ils ont pu. Et puis, ils l'ont amené à la foi. Cet homme s'est repenti et il a fait un chemin de conversion magnifique. Et il me l'amène pour dire, mais occupez-vous de lui parce que nous, on ne parle pas français. Et pourquoi moi? Pourquoi vous me l'amenez à moi? Ben oui, on a entendu parler de vous. Ben merci, ben on va s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le pasteur Luc disait, l'indifférence cherche des excuses. L'amour trouve des solutions. Est-ce que vous croyez cela? Alors je me suis débattu comme j'ai pu pour cet homme. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai appelé ici, là, je cherchais des hôtelleries, vous voyez, des secours, des relais. Et puis petit à petit, ça a fonctionné. Eux l'appelaient constamment, lui m'appelait, je lui ai offert une Bible, je lui ai offert un livre, je le prenais, je priais avec lui. J'essayais de faire ce que je pouvais. Chercher, faire des contacts, appeler l'assistante sociale, tout ce qu'on peut faire. Et c'est juste incroyable parce qu'à un moment, on a dit, c'est la catastrophe, il commençait à retourner vers la drogue. Alors, j'ai appelé des groupes de prière, j'ai dit, priez pour un frère, je n'ai pas donné de détails, j'ai dit, mais priez, il y a un besoin, il y a un homme, il est sorti de la rue, il est en train d'y retourner, parce qu'il n'est pas suffisamment entouré. Et moi, je ne peux pas, moi j'ai du travail. Alors, on a fait comme ça. Parfois, le temps et l'énergie, ça va être dans la prière. Et c'est un acte d'amour que d'intercéder, c'est un acte d'amour. Et voilà ce qui s'est passé. Cet homme retourne dans la rue, et nous crions à Dieu, nous disons, Seigneur, ne le laisse pas retomber. On téléphonait, il nous répondait plus. Vous savez, les toxicomanes, quand ils ne répondent plus au téléphone, c'est qu'ils sont retombés. Et puis, que s'est-il passé? Eh bien, nous, on disait, si seulement ils pouvaient trouver, je faisais des démarches pour trouver une institution qui accueille des toxicomanes en Suisse alémanique, je faisais ce que je pouvais. Et puis, voilà qu'un monsieur me téléphone, et puis cet homme avait été pris en charge par un chrétien d'une autre confession. Pas la même que la nôtre. On n'est pas d'accord sur tout. Mais ce chrétien d'une autre confession, il l'a pris à la maison. C'est un ancien toxicomane. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'au bout. Il a dit, tu vas faire un sevrage à sec. On va s'occuper de toi, on va te donner à manger, on va te donner à boire. Et ils l'ont gardé 2 mois à la maison. Et il a été complètement libéré des substances. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit bout. Un petit bout, ce que je pouvais. Voilà. Nous sommes appelés à ça. Dernière chose, Jésus sous deux versants ici. Jésus, c'est ce Samaritain qui se penche sur les souffrances de l'humanité. Et Jésus, à la fois, c'est la personne rouée de coups. Le pasteur Charlie et Magritte connaissent un homme qui était au Centrafrique avec eux, Élie, Robert Élie, vous vous souvenez? Voilà. Et cet homme me disait, qui se soucie de Jésus gisant sur le bord du fossé? Parce que quand je tends la main à celui qui est gisant, je tends la main vers Jésus. Et c'est très important parce que c'est parmi les péchés les plus graves que l'indifférence. C'est un des péchés les plus graves que fermer son cœur à une détresse. Les péchés contre l'amour sont parmi les péchés les plus graves. Et Jésus va dire dans une parabole qu'à cause de cela, certains seront envoyés dans le même état de feu de soufre que le diable. C'est chose terrible, mais on doit annoncer l'évangile dans sa plénitude. Ne fermons pas notre cœur. La parole de Dieu nous appelle. Et alors, je finis avec ça, le docteur de la loi. Il arrive en interrogeant Jésus, « Que faut-il que je fasse ?» Il lui dit, « Maître, ah tu m'as dit maître, eh bien je vais te parler en maître. » Il est pris au filet, là, l'homme. Parce qu'il lui dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» D'abord, il dit, « Qui est mon prochain ?» Et Jésus lui dit, « Lequel de ces trois ?» Ça veut dire, le prochain, c'est même pas celui qui est par terre. Il dit, « Fais-toi le prochain de quiconque est dans le besoin et qui croise ta route. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Nous avons un Christ qui s'est mouillé, un Christ qui s'est impliqué. Toi, implique-toi. L'amour s'implique. Que Dieu vous bénisse.